David Amelech vainc Goliath, et bien sûr il y a une grande victoire pour le peuple d'Israël qui en découle. Et lorsque les Juifs reviennent du combat, alors les femmes sortent avec des tambourins, se mettent à chanter. Elles chantent Shaul Balafav ve David Beribevotav. Shaul avec ses milliers, les milliers de morts qu'a fait Shaul, et David avec ses dizaines de milliers. Shaul entend ça et il dit quoi? À David, à moi on me donne des milliers, à David des dizaines de milliers. Rentre la maladie numéro 1 de l'histoire, la jalousie. Pourquoi lui oui, moi pas? Et dès ce jour, Shaul, qui est un tzaddik, lorsque le jour avant sa mort, Shaul, pour finir, va être tué, lui et ses enfants, dans une bataille avec les Philistins. Le jour avant sa mort, il sait qu'il doit partir au combat, il a très peur. Alors il va chez une femme qui est un médium et fait remonter l'âme de Shmuel à Navi. Il se cache parce que le roi a puni de mort tous les médiums. Il dit interdit de faire du médium, de parler avec les morts. Donc tous les médiums se cachaient. Et lui, quand il a besoin, alors il s'est caché en un incognito et fait monter le médium, fait monter Shmuel pour savoir qu'est-ce qui se passe demain. La femme, quand elle voit Shmuel monter, elle hurle, elle dit « Tu es le roi !» Comment ça se fait? Elle ne peut pas savoir qui est le roi. Elle dit « Parce que tous les hommes, quand ils montent, quand je fais remonter d'en bas, hein, du monde des morts, ils montent avec leurs pieds en premier. Que pour les rois, ils montent avec la tête en premier. Et là, Shmuel est monté avec la tête en premier. Donc j'ai compris que tu es le roi. Alors, je ne te ferai rien du tout, mais dis-moi qu'est-ce qu'il dit. Shmuel est furieux. Comment tu me fais monter maintenant d'où je suis, de ma place dans le monde des morts dans le paradis. Shmuel a eu très peur qu'on l'amène pour le jugement dernier. Alors il a pris avec lui Moshe Rabbeinu. Que Moshe puisse témoigner que Shmuel a vraiment fait tout à droit comme il fallait. Tellement il avait peur, nous devons avoir peur du jugement. Shmuel qui était un tzaddik, parfait. Alors il dit à Shaul, au roi Shaul, toi tu es demain avec moi. C'est-à-dire que tu as fini ton rôle sur terre, tu viens ici dans Olam Haba. On déduit Chazal, t'es avec moi, où je suis. Je suis où moi, Shmuel, au paradis, sans péché. Donc, Shaul était vraiment un grand tzaddik. Preuve en est qu'il a été choisi pour être le roi d'Israël. C'est pas n'importe qui peut devenir le roi d'Israël. Mais néanmoins, cette maladie terrible qui est la jalousie, qui est, comme je l'ai déjà dit ici, qui est la maladie numéro 1 de l'histoire. Le serpent originel était jaloux de Dieu. Il voit comme Adam et Ève vivent sympathiquement ensemble, il veut aussi s'approprier Ève, alors il fait du lashon hara. Après Caïn et Hevel, Caïn est jaloux de Hevel, il tue Hevel. On voit un exemple terrible. Il faut savoir que ces choses-là, si elles concernaient ces hommes-là, nous concernent nous à beaucoup plus forte raison. Que personne ici ne croit qu'il n'est pas jaloux. Parce qu'on n'a pas encore, on ne l'a pas enquiquiné là dans le... On n'est pas allé l'embêter. Dieu nous laisse un peu trop tranquille parce qu'il sait qu'on est... De toute façon, on tomberait. Alors, mais il ne faut pas nous mettre trop en épreuve. Et quand ça arrive dans la vie et ça arrive, ça va que nous sommes des malades et qu'il faut se travailler. Arriver à ne pas être jaloux du tout, c'est très difficile. Mais au moins, pas faire des actes qui sont une conséquence de cette jalousie. Tiens, je suis malade. Ok, malade, donc je n'agis pas. Comment il est celui-là? Toi, tu es jaloux de lui. C'est un type bien. Tu peux dire oui, mais... Ne dis pas mais. Au moins, sois jaloux qu'à l'intérieur. Si on peut arriver à ne pas être jaloux, à comprendre que lui, il a son job sur terre, et moi, j'ai le mien, et tout dépend de Dieu. Comme dit la Gemara dans Traité Yoma, elle dit, c'est ma page 20 ou 21, elle dit, « À ta place, on te mettra. En ton nom, on t'appellera. » Et une royauté ne touche pas la royauté voisine, si même d'un cheveu. Alors, ne t'en fais pas. Ce que tu dois avoir dans la vie, tu l'auras. Personne ne te prend rien. Personne ne peut te prendre une chose que Dieu t'a destinée. Ni ta place, ni ton nom, ni ton honneur, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton argent, ni rien du tout. Tout ce qui te revient, tu le recevras. Personne ne peut rien faire contre toi. Tout vient de Dieu. Alors pourquoi tu as des soucis? Pourquoi lui et pas moi? C'est quoi pourquoi lui et pas moi? C'est enfantin, mais c'est un gros panneau dans lequel tout le monde tombe. L'exemple donc que je voulais citer, c'était Yoram ben Nabat. Yoram ben Nabat, ce sera un descendant de Shlomo, c'est lui qui va faire le schisme. Le schisme qui va aller créer un nouveau royaume. Le royaume d'Israël, il y aura le royaume de Juda ici avec le temple. Il va créer un autre temple, il va mettre là-bas de la voie d'Azara, de l'idolâtrie. Et c'était un grand, 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 grand sage d'Israël, Yerovam ben Nevat. Et Chazal nous dit que Dieu lui a dit, fais tchouva, rétracte-toi, reviens dans la bonne voie. Et moi, Dieu, et toi, Yerovam ben Nevat, et Ben Ishai, le fils de Ishai, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Yerovam ben Nevat pose la question, qui sera en premier? Qui sera en premier? D'abord, Dieu lui a dit, moi, toi et Ben Ishai. Donc toi, tu es avant Ben Ishai. Il voulait l'entendre, il voulait souligner. Répète-le, j'ai mal entendu. Alors Dieu lui dit, ok, bah alors Ben Ishai est avant toi. Des gens posent la question, tu baisses le niveau. Ben Ishai est avant toi. David sera avant toi. Alors Ben Ishai a dit, si c'est comme ça, je veux pas. Il est devenu le plus grand faiseur de péchés de l'histoire, qui a fait faire au peuple juif le plus de péchés. Pourquoi? Comment je peux supporter d'être derrière Ben Ishai? Tu vas au paradis, puis devant toi sans cesse. C'est insupportable. Insupportable. Comment vous avez quelqu'un d'être en concurrence avec lui? Il est devant toi toujours, pour l'éternité. Tu deviens dingue. Vous comprenez que c'est malade? C'est malade. Shaoul tombe dans le panneau et veut tuer David. Alors, un tzaddik qui est jaloux, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je dois le tuer parce que je veux prendre sa place. Non, il habille ça avec des arguments valables. Mourab et Malchut, il veut tuer le roi, l'Alaha dit que quelqu'un veut tuer le roi, donc il est passible de mort, on peut même songer le juger, on peut le tuer, etc. Chacun, lorsqu'il veut faire un acte qui est mauvais, il aura des alibis. On dit que l'Etserara, il connaît la chasse par cœur. L'Etserara, il connaît toute la loi juive par cœur. C'est toujours quand il trouve un bon argument pour lui, il sait te citer une citation comme ça de Chazal, de l'Agmara, une preuve que dans ce cas-là, bien sûr que c'est permis d'aller faire la grande Avera, de tuer. Ou de parler à la Shonara. On peut tuer avec un poignard, on peut tuer encore plus avec la Shonara, avec une parole. Tu peux tuer quelqu'un. Fini, terminé. Fini. Comment celui-là? J'ai rien dit. C'est fini, tu as peut-être. Il avait une bonne place, il aura plus cette place à cause de toi maintenant. Alors quoi à cause de toi? Je viens de dire il y a quelques secondes que personne ne peut rien me faire. C'est vrai. C'est vrai. Si Dieu veut que j'ai une place, je l'aurai. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent en mal, j'aurai cette place. Si Dieu veut. Si Dieu ne veut pas que j'ai la place, qu'est-ce qui se passe? Le type qui voulait m'embaucher se renseigne chez le parleur de la Shonara. Le parleur de la Shonara dit une chose qui est mauvaise pour moi, je ne reçois pas ma place. Moi, je tourne dans le panneau idiot que je dis, c'est à cause de lui. C'est faux. Dieu a voulu. Lui n'était que l'intermédiaire. Il était l'envoyé de Dieu pour que je n'ai pas cette place. Mais lui, ayant le libre arbitre de oui ou non parler à la Shonara, et il a parlé sur moi mal, il sera jugé. C'est-à-dire que Dieu voulait que je ne reçoive pas la place. Pour cela, il fallait qu'il y ait une case libre. Quelqu'un, maintenant, on cherche quelqu'un qui va faire la vera grave la Shonara, et en cela... arrêter toute la parnassa, tout le gagne-pain d'un homme et sa famille. La Shonara grave. Il cherche quelqu'un qui déjà, il a une tendance à mal parler, qui est jaloux, qui n'aime pas, qui n'arrive pas à retenir ses pulsions négatives. On le met maintenant en épreuve. Est-ce qu'il va faire tchouva, il va dire, mais il n'y a aucun problème, il est très bien. Ou bien non, il va faire la Shonara, soi-disant comme il faut. Il a une épreuve. Dieu est en situation d'épreuve. Il rate, s'il réussit. Dieu arrivera à ses fins par... en mettant quelqu'un d'autre dans la case. Mais si maintenant la personne elle a raté son épreuve, alors par le biais de cette personne, moi, donc la personne qui devait perdre sa place, perd sa place. Mais lui, celui qui a parlé, est responsable. Mais moi, je n'ai rien à faire qu'il soit responsable, c'est pas mon affaire. Moi, je m'occupe avec Dieu. Je n'ai pas d'histoire avec lui, avec Dieu. Personne ne peut me piquer quoi que ce soit. Shaoul tombe dans le panneau, il veut tuer David. Et David s'enfuit. Il ira se cacher dans le désert de Judée, il ira à En-Gedi. Un jour, il se cache, et 3000 hommes avec Shaoul sont là, ils vont attraper David HaMelech. Et sur chaque partie que j'ai, il y a des Télim, je ne vais pas tous les dire maintenant, Télim qui parle comment il se cache dans la grotte à En-Gedi, et une fois comment il est dans le désert de Judée, il dit à Dieu, je suis affamé, assoiffé dans le désert, et on me poursuit, sauve-moi. Et chaque fois, Dieu le sauve à la dernière minute. Là, les 3000 hommes arrivent pour attraper David. Et ça y est, ils sentent que c'est fini. À la dernière seconde, vient un émissaire qui dit à Shaoul, les Philistins sont en conquête, ils sont en train de conquérir le pays. Toute l'armée part, ils lèvent le camp et ils partent se battre contre les Philistins. À la dernière seconde, David est sauvé. David va écrire bien sûr un télim. Toutes ces histoires que je vous raconte, télim, tous les télims, c'est l'histoire du roi David. Il va écrire le télim suivant. Kouftel Zain, 116. J'aime que l'Éternel écoute ma voix, mes supplications. Qu'il incline son oreille vers moi alors que je l'invoque chaque jour de ma vie. Les liens de la mort m'avaient enveloppé. Les angoisses du Sheol, Sheol c'est le monde des morts, m'avaient étreint. J'avais éprouvé détresse et douleur. Mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. De grâce, Seigneur, sauve mon âme. Clément à l'Éternel est juste, notre Dieu est compatissant. L'Éternel protège les simples. J'étais abaissé, il m'a porté secours. Reviens, ô mon âme, à ta quiétude, car l'Éternel te comble de ses bienfaits. Oh oui, tu as préservé mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je circulerai devant le Seigneur dans la terre des vivants, je veux rester vivant. Je suis plein de foi quand je parle, si humilié que je puisse être. Pourtant, j'avais dit dans ma précipitation, quand j'étais poursuivi maintenant par Shaoul et ses soldats, j'étais prêt à dire, je ne comprends pas. Shmuel, le prophète, m'a sacré, je vais devenir le roi d'Israël. Comment est-ce que je peux mourir? Et j'ai vu que Shmuel s'est trompé. C'était dans 2 secondes encore, on me tuait. Je finissais la vie. Plus ni roi, ni rien du tout. Donc Shmuel s'est trompé. Shmuel s'est trompé, même le grand prophète s'est trompé. Alors qu'est-ce que j'avais dit dans ma précipitation? Tout dans l'homme est trompeur. Même Shmuel peut se tromper. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés pour moi? Je vois que malgré tout, Dieu était tellement bon pour moi. Je lèverai la coupe du salut et proclamerai le nom de l'Éternel. Mes vœux, je les acquitterai envers l'Éternel à la face de tout son peuple. Etc., etc. Je vous laisse la suite. Tehilim 116. Avec David, se crée autour de lui une équipe de quelques centaines de juifs qui sont la bande à David. Et David, il est dans le désert, il est dans les montagnes, et il va avec sa bande comme ça. Et durant des mois, il va protéger, lui et sa bande, les nombreux troupeaux d'un riche propriétaire de troupeaux qui s'appelait Naval à Carmélie, dans le Carmel. Naval, le Carmélie qui vient de la région du Carmel. Et un beau jour, c'est la veille de Rosh Hashanah, et on a besoin d'un peu d'aliments pour la fête. Et Naval est en train justement de faire la tonte de ses nombreuses brebis. Alors David envoie des émissaires que, en reconnaissance de toute la protection que nous avons faite durant des mois à tout troupeau, qu'aucun troupeau a été dévoré par les loups, etc., que donne-nous un peu de nourriture, moi et ma bande, pour la fête de Rosh Hashanah. Naval dit, c'est qui ce David dont vous me parlez? Il y a beaucoup de serviteurs qui, comme ça, se révoltent contre leur maître, parce que David s'est révolté contre le roi. Ces esclaves-là qui se révoltent, c'est Khatsouf, insolent, il ne donne rien du tout. Les émissaires reviennent vers David lui disant, il t'a traité d'insolent. Comme ça, ok. Je jure qu'avant la nuit, il fut parti du monde des morts. Et David met son épée, il monte sur ses chevaux avec ses hommes pour aller régler le compte à Naval à Carmélie. De quel roi fait cela David? David est roi d'Israël. Or celui qui fait un acte contre le roi d'Israël, il est Mored Malchut. Il est considéré comme Mored révolté contre le roi, passible de mort sans jugement. Hein? Alors attends. David est en route pour aller tuer Naval à Carmélie. La femme de Naval à Carmélie, c'est une grande sadéquette. Elle s'appelait Abigail. C'était une des 7 prophétesses qu'a eu le peuple juif. Elle a su que David venait pour tuer. Elle est au courant de ce que Naval signifie même Sharon, d'accord? C'est quelque chose de quelqu'un de mauvais. Elle savait que son mari était un homme mauvais, sans cœur. Elle était au courant de cette histoire, ce qui s'est passé. Et elle a peur que David va venir tuer son mari. Alors elle prend quelques ânes avec de la nourriture pour la bande à David. Et elle est en route la nuit. Elle descend la montagne. David est en train de monter la montagne. Et s'en compte au milieu de la descente de la montagne. Elle lui montre une tache de sang, demande est-ce que c'est un sang qui est pur ou impur. David lui dit, on n'a pas le droit. Vous savez que la nuit, on ne peut pas regarder. C'est la nuit, à la lumière de la lune, on ne peut pas voir. Il faut voir si c'est rouge foncé, rouge clair, pur, impur. Et on ne peut pas vérifier la nuit. Elle répond, et on a le droit de faire dîner nefashot, de juger un jugement de vie ou de mort la nuit. Alors, elle dit aussi qu'on n'a pas le droit de juger un jugement de nefashot, un jugement de vie ou de mort la nuit. Elle répond, mais les morets de Malchut, ce n'est pas un jugement, il est révolté contre un roi, on peut le tuer sans jugement. Elle lui répond, c'est vrai que tu as été sacré roi par Shmuel, mais personne n'est encore au courant que tu es roi, tu n'es pas roi réel, tu es roi potentiel. Donc il n'est pas mort de Malchut. Et il discute comme ça. Elle le bénit, elle lui dit, et quand je serai veuve, alors souviens-toi de moi, je veux être ta femme. Chazal disent, comme une oie qui... Elle baisse comme ça le cou, mais elle monte un peu comme ça vers la fin. Elle fait comme si elle se rabaisse, elle baigne tout ça, mais elle lui fait un petit signe. Le jour où je serai libre, alors rappelle-toi de moi. David Ameller, une prophétesse, de quoi on parle là, de gens dans la rue, c'est une femme mariée. Femme mariée qui dit à la type, écoute, quand mon mari sera mort, alors coucou.
Au moins, il ne pourra plus les tuer.
Hein?
Maintenant, il aura l'intérêt à les tuer.
Ah, bravo. Elle agit avec finesse, comme une femme. Elle sait que David, il veut aller tuer son mari. Elle, en tant que femme, doit tout faire pour que son mari ait la vie sauve. Elle sait que David est un homme droit. Or, la Torah dit, « Ashochad yaver ene chachamim » Le shochad, le pot de vin, aveugle les sages. Si maintenant David est désintéressé, cet homme-là, il mérite la mort, on va le tuer, je suis clean par rapport à Dieu. Mais si maintenant, oulala, on me dit que si je le tue, alors il y a, puis elle était pas mal, Abigail, alors elle va être ma femme, aïe aïe aïe. Est-ce que je suis vraiment maintenant tout à fait impartial dans mon jugement? Je peux pas.
Il y a un jugement.
Hein? Ok, alors ça, c'est quand on porte un serment, et il y a une bonne raison qui était pas prise en considération lorsqu'on a juré, on peut faire une atara. C'est ce qu'il a dû faire. On raconte qu'il y avait un grand rav, qui était après un grand rav en France aussi. À la base, il était saint des rabbins de Novardok. C'est lui qui après a monté toutes les yeshivas de Novardok en France. Rav Gershon Liebman. Lui, dans sa jeunesse, donc c'était à yeshiva Novardok, il était extrêmement pauvre. Et lui s'occupait de la caisse des élèves. La yeshiva, il y a la caisse de la yeshiva, qui est toujours vide. Il y a la caisse des élèves, c'est les élèves eux-mêmes, qui vont demander un peu par-ci, comme ça, de l'argent pour les gens, pour qu'au fait, ils aient des habits, quand quelqu'un se marie, on lui donne un petit cadeau, etc., de la yeshiva, pour aider les élèves eux-mêmes. Et lui avait des critères très très clairs, qui a droit à un costume, qui a droit à un chapeau camp, et qui a droit à une paire de chaussures, etc. Et je vois, tout le monde savait, si quelqu'un voulait un costume pour la fête, il n'avait pas droit. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller et insulter le Rav Gershon. Lui faire une méchanceté. C'était quasi certain, la prochaine fête, il recevait un costume. Pourquoi? Parce que tant que le Rav Liebman, il est impartial, il dit d'après les critères, tu n'as pas droit au costume, ok, ça va. Mais maintenant, si je donne pas un costume, parce que toi tu m'as, même d'après les critères, mais mes critères, à quel point je suis vraiment impartial maintenant que peut-être les gens vont croire, ou même moi, que je t'ai pas donné à cause de quoi, parce que je t'en veux pour l'insulte que tu m'as fait, pour pas qu'il y ait de problème, tu reçois le costume.
Mais pourquoi il était obligé d'accepter les avances d'Aliyah?
C'est-à-dire, je l'ai compris. Elle le rencontre au milieu de là.
Elle lui a dit, c'est...
elle a béni.
Souviens-toi de moi quand je serai ravi.
Ouais.
Il était obligé d'accepter.
Non, pas accepté. Il lui a dit ça, c'est tout. Terminé.
Oui, et lui pouvait tuer son mari et dire je tiens.
Non, mais du moment qu'il va maintenant tuer, lui, il sait que quand il tue, il reçoit en cadeau bonus la femme.
S'il veut,
mais c'est une possibilité. Donc c'est fini. Il ne sait plus est-ce que je suis vraiment maintenant les Shem Shaman complètement pur dans ce fait d'aller le tuer ou pas. J'ai peur. Et David ne l'a pas tué. Ça s'entend. Âge de 30 ans, donc 2 ans après qu'il a été sacré, Shaoul meurt dans la guerre contre les Philistins, et le roi David devient roi d'Israël, plus potentiel mais réel. Et pendant 40 ans, il sera le roi d'Israël. Il part en guerre contre les Philistins. Dieu lui dit... Toujours tout quand Dieu lui dit, c'est par le pectoral, le Urim et Thummim du Kohen Gadol, par lequel on recevait des messages de Dieu. Lui, tu iras te battre, mais ne va pas droit, fais, contourne. Tu vas aller, il y a des arbres sauvages, tu vas aller te cacher dans les arbres sauvages, et quand tu entendras un vent qui passe entre les feuilles des arbres, tu te lèves et tu attaques. Et ces hommes vont en rampant comme ça, sous les arbres sauvages, et les Philistins s'approchent, commencent, sont plus qu'à 2 mètres de David et ses hommes. Les hommes disent à David, si nous on ne se fait pas maintenant, ils vont nous tuer. On va se faire attraper, on va se faire tuer. Et il répond, David, je préfère me faire tuer par les Philistins et mourir tzadique que d'enfreindre la parole de Dieu. Dieu a dit, lorsqu'on entendra le vent dans les feuilles des arbustes, on n'entend rien du tout, on reste couché. En cela, David a réparé quoi? Il a eu la même épreuve qu'a eu Shaoul. Shaoul, le prophète Shmuel lui a dit, attends 7 jours pour amener l'Holocauste, quand tu pars en guerre contre les Philistins. Shaoul attend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Il voit que les soldats commencent à faire pression, comme maintenant sur David. Ouais, on ne peut pas, il faut partir en guerre, les Philistins sont ici, qu'est-ce qu'on fait? Et Shaoul a cédé au peuple. Il a amené l'Holocauste, sacrifié l'Holocauste, sans que Shmuel soit là. À cause de cela, Shmuel lui a dit, terminé, tu n'as pas été d'après le désir de Dieu, Dieu va retirer la royauté, la donner à quelqu'un qui ira d'après son désir. David, la même épreuve, réussit. Il ne sera pas, va pas être vaincu par la pression de la population. Un roi doit être un roi, pas comme aujourd'hui, ce que le peuple veut, alors on suit. D'accord? Un roi, c'est un roi. En cela, il a réussi. Et tout à coup, le vent se met à passer dans les feuilles des arbustes, et tous les soldats du roi David se lèvent, et ce sera une grande victoire du peuple juif contre les Philistins. Le roi David est dans son palais et décide de construire le temple. Il appelle Nathan le prophète, lui dit, comment se fait que moi je suis dans un palais et l'arche sainte, l'arche sainte dans laquelle il y a les tables de la loi, dans une tente, c'est pas suffisamment honorifique. Nathan lui dit, c'est bon, tu peux y aller, vas-y. Pendant la nuit, Dieu se dévoile au prophète Nathan, lui dit, non, je veux pas que ce soit David. David a versé du sang, d'après mes ordres, mais néanmoins c'est un guerrier, ce ne sera pas lui qui pourra construire le temple, ce sera son fils Shlomo. Va vite lui dire à David, parce que David, quand il a une mitzvah en tête, c'est inico and presto. Nathan vient en pleine nuit, chez David lui dit, stop, tu ne pourras pas construire le temple. La chose se fait savoir que David aurait dû construire le temple, mais était empêché. Les ennemis de David se lèvent. C'est qui les ennemis de David? Il y en a beaucoup. Ceux qui sont des partisans de Shaoul, des jaloux, ça ne manque pas. Tout est libre, raconte toutes les histoires des ennemis de David. Se lèvent, disent, ils vont faire une manif en bas de la maison de David. Jusqu'à quand, David, tu vas vivre? C'est pas qu'on est contre le fait que tu vives. Oui, vive très longtemps. Mais tant que tu vis, il n'y a pas de temple. Nous, on veut le temple. En deux mots, on veut que tu crèves. Un homme normal, il entend ça, il est touché. Que dit le roi David? Écrit les Tehillim. Samarti b'omrim li bet Hashem nelech. Je suis heureux quand on me dit, on va aller maintenant à la maison de Dieu, vers le temple. Que moi je crève? Que je crève. Qu'est-ce qui est sur que moi j'existe? Ce que je veux, c'est une seule chose. Je veux qu'il kidouche Hashem, sanctification du nom de Dieu. Si moi je dois disparaître de ce monde pour qu'il y ait le temple, alors que je disparaisse. Je suis heureux qu'on me dise, on veut qu'il y ait le temple. Vous avez raison, venez Israël. La pureté du cœur du roi David. Transparent.
Ils ont quand même souhaité la mort du roi.
Ils ont souhaité la mort du roi, c'est vrai. Mais le roi David, il entend le message qui est dit. Quoi, vous voulez le temple? Très bien. Et c'est vrai que pour que le temple soit construit, il faut que je disparaisse. Vous avez tout à fait raison. Qui je suis pour dire non, moi je reste, et le temple va encore attendre?